Le Crédac, Jardin d'hiver, Jochen Empert.
Ce qui était assez marquant, je pense, c'était ce que lui appelle les botanical boxes. En particulier une dont j'arrive pas à me souvenir du titre, mais une série de trois photographies qui ont été de toute évidence prises quelques secondes l'une après l'autre. Et on voit un monsieur ou une vieille dame assise sur un banc et un vol d'oiseaux. Et on n'arrive pas très bien à saisir la chronologie. On sait qu'il y a une fraction de seconde qui se passe entre chaque image, mais on ne comprend pas exactement dans quel ordre. Et aussi comment il a pris ces images-là, quoi. C'est saisir un instant qui a duré très peu. Enfin, il y a un côté très beau, quoi, dans cette manière de saisir quelque chose qui n'est pas saisissable en soi.
Anna Mendoza travaille à la galerie Air de Paris depuis 3 ans. Elle est aussi commissaire d'exposition indépendante.
En tant que commissaire d'expo, ce qui m'a marqué, c'est l'impression que j'ai souvent, c'est qu'un artiste, peut-être mieux que personne d'autre, enfin parfois, fait une exposition de son travail. Pour le coup, ça se voit que Johan Lampert fait un choix absolu de ses œuvres, quoi, du sujet, de l'instant qui est saisi. Ensuite, quand il travaille ses images dans son laboratoire, jusqu'à sa présentation, l'échelle qu'il décide pour présenter chacune de ses pièces, et l'accrochage en soi, quoi. Ça, la manière de présenter son travail, ça ressemble presque plus à une espèce de constellation d'images qu'à une succession d'images, quoi. C'est pas ça qui est mis en avant, c'est plutôt les interactions entre les différentes images, entre les différents sujets, les liens qui se créent entre les différents animaux ou les différents humains, on va dire, qui apparaissent de temps en temps dans ces images. Enfin voilà, quoi, les interactions entre les sujets eux-mêmes, c'est ça qui ressort de son travail. Un jeu de texture, un jeu d'ombre aussi, de lumière. Enfin, il y a quelque chose d'assez subtil qui est très mis en avant dans l'accrochage lui-même, quoi. J'ai lu du coup dans un communiqué de presse d'une exposition qu'il a fait au Japon il y a quelques années qu'on parlait de l'atlas Mnemosyne de Warburg, et ça devient assez évident, quoi, dans sa manière de présenter le travail. C'est une espèce de, ouais, je me répète, quoi, mais de sujets qui viennent de manière récurrente, quoi, de thématiques, presque un peu comme ça serait peut-être presque comme une mélodie, quoi, comme une tonalité qui revient et qu'on revoit, mais un peu d'une autre manière, avec une autre couleur. Voilà, c'est créer des liens, quoi. C'est devenu une exposition d'été, malgré son titre Jardin d'hiver. Oui, ça me fait penser à l'exposition de Nina Canel, qui est une exposition solo aussi au Crédac il y a 2 ans. La question de temporalité que j'évoquais tout à l'heure était la même. Il y avait ces matières de Nina Canel qui fondaient doucement. C'était de la résine de pistachier, si je m'abuse, dans une des œuvres de Nina, qui fondait très très lentement dans l'espace d'expo. Il y avait aussi des limaces qui se baladaient dans une des pièces. Donc voilà, il y avait un peu ce lien d'une temporalité de la limace, on va dire, enfin du petit insecte, de petit habitant, quoi. Alors, la première fois que j'ai vu le travail de Johan Lampert, c'était peut-être dans un contexte dans lequel on s'attendrait moins à avoir un travail aussi délicat et aussi doux qu'est le sien. C'était à Art Basel en 2019, donc dans une énorme foire d'art contemporain. Et ce qui était marquant de son travail, c'était que donc c'est un travail qui est assez fragile et qui était exposé de manière extrêmement humble, donc sous vitrine, sans cadre, de manière assez simple, quoi. Et ça contrastait complètement avec, avec le contexte d'une foire d'art contemporain. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est déjà tout simplement sa manière de voir la vie et de voir les choses qui se passent. C'est le fait de travailler sur une autre temporalité qui est de toute évidence plus lente. Et ça devenait peut-être particulièrement évident à cause de la situation du Covid, où finalement tout était arrêté. Et ça nous obligeait tous finalement à être un peu à l'arrêt, quoi, et à voir ce qui se passait autour.
Le Crédac, Jardin d'hiver, Jochen Empert.
Bon, y a une photo qui m'a marqué, c'est celle d'un tableau où il a photographié un tableau, il y a trois bateaux avec un... Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que elle est à côté d'une photographie où je pense qu'il a sous-exposé le film et utilisé un liquide avec des poussières.
Josquin Gouy-Frossard, artiste.
En photographiant une peinture qui est totalement figurative sur un paysage et mettant à côté d'une photographie totalement abstraite et sans négatif. Et en fait, là, il parle des deux médias comme quoi, en fait, on peut faire ce qu'on a envie, on s'en fout, quoi. Voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça. Parce que c'est un peu la manière aussi que je conçois les choses. Comment j'ai découvert? Bah écoute, j'ai pas découvert le travail, j'ai découvert le bonhomme, enfin l'artiste, quoi, en 2003, pour un projet qui s'appelait X-In. Et c'était un projet qui était partagé entre des artistes utilisant la photographie qui avaient déjà une carrière ou enfin un début de carrière, quoi, et après les jeunes de l'école expérimentale où j'étais à Montreuil. Donc chaque année dans ce programme, en fait, de cette école, il y avait des intervenants. Et en fait, Joren, c'est un ami de Véronique, l'artiste qui avait ses cours, quoi, qui avait monté cette école expérimentale. C'est un ami à elle de Hambourg. Moi, j'ai quelques souvenirs de cette époque. Je sais qu'on avait photographié des crottes de chiens et des crottes, des oiseaux morts, des trucs par terre, quoi. Et ensuite, je me rappelle de lui qui parlait bien français. Donc c'était bien parce que moi je parlais pas du tout allemand. Et Joren, quand il est arrivé à l'atelier en 2003, il a porté une photographie objective. Alors que nous, on était fans d'une photographie subjective, limite expressionniste, quoi. Donc, et souvent, c'était des photographes documentaires qui... donc pas reportage, hein, photographie documentaire, mais assez expressionniste. Et lui, il arrivait avec un travail où il faisait en fait une espèce de collection de petites images. Naturliche Ressourcen. Donc c'est une édition de 98, il me semble que j'ai regardé et c'était genre 96-98, un truc comme ça. Il me l'a signé. Fur Josquin, très amicalement, Jochen. Et tout un temps, il a photographié du coup des objets qui avaient forme animale, quoi. Ça va une oie en porcelaine à côté de lingerie dans une vitrine. Après, au mimétisme d'une grenouille qui devient un dévidoir à papier toilette, quoi. Il a un certain humour, ce livre, et il est très ironique, quoi. Tu vois, il a même un truc un peu qu'on pourrait dire qu'il est un peu punk, quoi. Et Jochen, en fait, il a son monde, et à lui, il a sa manière de voir le monde. Et d'enregistrer, de glaner un petit peu ces choses-là. Mais il n'est pas seul dans sa manière de concevoir la photographie. Il fait partie d'une famille. Voilà. Et ce qui est certain, c'est que chez Jochen, il y a une désinvolture qui est. Que moi, enfin, je trouve essentiel, voilà, ces photographies qui sont mises au mur directement, etc. Et en France, on a beaucoup de mal avec ça. Et c'est pour ça que Jochen a mis un temps fou à être montré ici. Et je pense qu'en fait, la notion de cadre, elle est tellement importante en France que de manière vraiment au sens figuré, lui, il monte des photos sans cadre, quoi. Donc, et même historiquement, en fait, il se rattache à une photographie qu'il y a eu assez peu en France. Il disait à Claire Lerestive qu'il photographiait ce qui était invisible. Je suis pas forcément. Moi, je vois ce qu'il veut dire, mais je suis pas forcément tout le temps d'accord. Il photographie surtout ce que les gens ne prennent pas de temps de regarder, peut-être.
L'exposition de Jochen Lempert, dont je m'apprête à parler, s'appelle Jardin d'hiver. Elle succède à deux autres expositions appartenant au même cycle, où le photographe allemand s'en remet aux saisons pour animer les images du monde. Les deux expositions précédentes s'intitulaient Sudden Spring et Predicted Autumn, soit en français Printemps soudain et Automne prédit. Lempert a choisi d'investir l'hiver d'une manière presque détournée, et pour cause, les jardins d'hiver sont ces somptueuses verrières qui firent fureur au début du siècle dernier et dans lesquelles prospéraient palmiers et fleurs du désert. Ce titre prend tout son sens lorsque l'on pénètre dans l'espace d'exposition du Crédac. Nous sommes au troisième étage de la manufacture des œillets, à Ivry, dans le Val-de-Marne. L'espace d'exposition est l'un des plus paisibles que je connaisse. La lumière du jour envahit l'espace comme ferait l'écume de la mer sur une plage désertée. Le titre de l'exposition nous renseigne donc bien sur le lieu où nous nous trouvons. Ce n'est plus un musée, c'est un jardin d'hiver. Mais ce jardin a des secrets et ce sont eux que je voudrais explorer ici. Je crois que ces secrets ont quelque chose à voir avec la constellation de mots suivantes. Poussière, apocalypse, spectre, passion. Il m'a toujours semblé difficile de bien parler de la photographie. Il suffit peut-être de faire des phrases et d'y mettre les mouvements des mondes. Fidèle à moi-même, j'ai décidé d'opter pour le chemin le plus tortueux. Je veux dire, j'ai décidé de me perdre dans le jardin d'images devenu forêt d'affects et feu de phrases. Je travaille sur l'art lors de l'extinction, ce qui m'amène à frayer de manière plus ou moins consciente avec beaucoup de fantômes, de spectres et de créatures des ténèbres. J'ai commencé par m'intéresser aux animaux en souffrance et à la manière dont cette souffrance, catapultée dans une vie humaine, pouvait changer cette vie à tout jamais, et dont réciproquement, cette vie changée pouvait s'associer à la souffrance animale et faire ce que j'aurais peut-être dû faire depuis longtemps, trahir l'humain. Quand on prononce le mot « humanisme », on pense très vite à toutes les choses somptueuses dont nos musées sont remplis. Mais si, comme le notait Walter Benjamin dans cette thèse sur le concept d'histoire, tout document de culture est aussi document de barbarie, alors les musées se révèlent être l'archive secrète de la violence humaniste. Le beau est souvent un écrin rempli de cadavres. Mais les voix des créatures massacrées passent encore à travers la muraille de la beauté. Le monde, en arrière-fond, réclame justice. La créature attentive à ses voix ne peut traverser le Louvre sans prendre le risque de sombrer, comme on dit, dans la folie. Tellement de spectres partout, c'est à en devenir fou. Il y a quelque chose de criminel dans le respect religieux que l'on nous enseigne à l'égard des œuvres. Les bonnes choses n'ont pas besoin d'être profanées, elles le sont déjà, ouvertes, disponibles, communes. Quand je repense aux œuvres d'art que j'aime, je réalise que le sujet humain s'y trouve toujours malmené d'une manière ou d'une autre. Quand je rentre dans une exposition, j'attends de cette exposition qu'elle m'aliène au sens premier du terme. Si quelque chose en moi ne se trouve pas désarmé, terrassé par les œuvres en présence, alors je désespère et j'écris dans ma tête des critiques virulentes qui finissent bien souvent en rêves éveillés dans lesquels je suis presque toujours recueilli par une armée d'aliens anarchistes bien décidés à détruire ce qui doit être détruit afin de permettre aux autres mondes de se déployer. C'est bien que les œuvres ont, en d'autres lieux et en d'autres temps, répondu à d'autres besoins et occupé d'autres fonctions. Mais cela n'y change rien. Quand je rentre dans une exposition, c'est précisément pour m'exposer à la morsure des autres mondes. Je n'exige rien d'autre que d'être aliéné, c'est-à-dire affecté et transformé par ces créatures qui me font face, que l'on nomme œuvre d'art. Je vais parler des photographies de Lempert, et ce sera comme raconter des histoires qui mettent en forme le monde. Dans ces histoires, il faudra toujours réserver un espace pour la mort, pour qu'elle s'enroule autour des vivants et qu'ils apprennent à chérir ce dont elle est la promesse. La mort à mes côtés est comme un démon, comme un familier. Si j'ai ma mort à mes côtés, alors ce sont tous les morts aussi qui convergent et veulent me parler. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, on le sait. Mais on sait moins qu'il faut aimer sa mort à soi pour aimer les morts des autres. Et puis aimer les morts tout court. Les morts, les mortes. Le grand bruissement de spectres que l'on nomme aujourd'hui multivers. Il y a quelques années, Jørgen Lempert avait présenté une autre exposition au Crédac, premier volet d'un projet curatorial mené par Chris Sharp sous le titre « The Registry of Promise ». La proposition de Lempert s'intitulait quant à elle « The Promise of Melancholy and Ecology », la promesse de la mélancolie et de l'écologie. Cette promesse, je crois qu'elle court à travers toute l'œuvre de Lempert. Ici, chaque photo semble promettre quelque chose. Et cette promesse est toujours recouverte par cette fine couche de poussière que l'on retrouve, par exemple, dans le livre de Sebald. Poussière qui est, je crois, l'une des caractéristiques de l'imagination mélancolique propre à notre temps. Le grain des photographies de Lempert lui-même n'est pas sans rappeler cette poussière qui, par la grâce de l'usure, rend visibles les mouvements de la matière et le poudroiement du monde. Peu après avoir découvert le jardin d'hiver de Lempert, j'ai rêvé d'un espace d'exposition en forme de vaste élevage de poussière. Les vitrines poussiéreuses auraient ainsi redoublé le grain des photos, et la matière aurait pu, mieux que jamais, faire entendre son mélancolique mugissement. Je me souviens d'un passage de La Route, le célèbre roman post-apocalyptique de Cormac McCarthy, où l'enfant murmure à son père « S'il te plaît, ne me dis pas comment l'histoire va finir. » Je ne sais pas précisément pourquoi, mais j'ai repensé à cette phrase alors que je me trouvais face à l'une des vitrines composées par Yoren Lempert au Crédac. C'est comme si les photos elles-mêmes avaient pris la parole. Mais en réalité, s'adressant à moi, elles me demandaient plutôt « S'il te plaît, ne me demande pas comment l'histoire va finir. » Alors je n'ai pas demandé, et aujourd'hui je ne sais toujours pas. Il y a un gros buisson de houx au fond de mon jardin. En m'y piquant les mains, il y a quelques mois, j'ai repensé à une photo de Lempert, où les pointes hérissées d'une feuille de houx viennent piquer la blancheur qui l'entoure. En voyant une pointe de sang poindre sur ma main, j'ai repensé à la phrase précédemment citée, mais encore une fois elle s'était transformée. L'enfant du roman de Cormac McCarthy et les photographies de Yoren Lempert unissaient désormais leurs voix pour me dire « S'il te plaît, fais en sorte que l'histoire ne finisse pas. » Toujours dans La Route, on peut lire « Du temps en sursis et un monde en sursis et des yeux en sursis pour le pleurer. » Là encore, j'ai repensé aux photographies de Lempert. Je me suis demandé pourquoi, dans le roman comme dans les photographies, le temps de la fin comparaissait avec tant de douceur. Je veux dire presque avec tendresse. J'avais cru comprendre, en lisant quelques livres, que c'était là quelque chose de propre à la tonalité mélancolique, qui montre le pire avec douceur et, pourrait-on dire, presque par amour. Je me suis demandé si la photographie, à l'heure de l'extinction, n'était pas plus que jamais une opération d'amour. Cette pensée a gonflé en moi, et de tendre est devenue rugissante. J'ai dit merci à la mélancolie d'articuler ainsi tristesse et colère. J'ai compris le sens de l'expression idiomatique « l'énergie du désespoir ». D'un coup, c'est comme si la poussière s'était mise à hurler, d'un hurlement qui n'était autre qu'une exigence d'infini. Je fais référence au roman de Cormac McCarthy, car je crois qu'il en dit long sur ce qui se joue dans les images à l'heure de l'extinction. Dans les dernières lignes du livre, s'ébauche quelque chose qui ressemble à une théorie de la remémoration comme rédemption. Autrefois, écrit McCarthy, il y avait des truites de torrents dans les montagnes. On pouvait les voir immobiles, dressées, le courant couleur d'ambre ou les bordures blanches de leurs nageoires ondulaient doucement au fil de l'eau. Elles avaient un parfum de mousse quand on les prenait dans les mains, lisses et musclées et élastiques. Sur leur dos, il y avait des dessins en pointillés qui étaient des cartes du monde en son devenir, des cartes et des labyrinthes, d'une chose qu'on ne pourrait pas refaire ni réparer. Dans les vals profonds qu'elles habitaient, toutes les choses étaient plus anciennes, et leur murmure était de mystère. Plus je relis ces lignes, plus elles me font penser aux photographies de Yoren Lempert. L'œuvre d'art ravive les souvenirs pour permettre au spectre de retourner dans l'oubli. Je témoigne d'une chose pour qu'elle puisse dormir sur ses deux oreilles, comme les truites dans le roman de McCarthy. Remémoration, inquiétude et repos. La chose remémorée accuse. Mais une fois l'accusation entendue, reconnue, la chose remémorée peut aller dormir. Rendre justice, c'est écouter la chose qui a sommeil, lui faire une promesse, et enfin lui permettre d'aller dormir dans le feu noir et comme en paix pour toujours. On se souvient des morts pour qu'ils puissent s'oublier eux-mêmes. Les fantômes ont seulement besoin d'être remémorés, mais la remémoration n'est complète que lorsque justice est rendue. Exaucer les vœux des morts. Telle est la tâche ultime de la culture. La culture alors spectrologie, ou pour reprendre le mot de Derrida, anthologie, avec un H, comme dans Maison hantée. Mais les photos ne se contentent pas d'être là. Elles ont leur propre voix. Elles exigent quelque chose. Texte intitulé « Le jour du jugement », texte dans lequel il parle des photographies qu'il aime pour finalement y trouver une puissance messianique. « Il est un autre aspect, écrit-il, dans les photographies des photographes que j'aime et que je voudrais taire pour rien au monde. Il s'agit d'une exigence. Le sujet pris en photo exige quelque chose de nous. Le concept d'exigence est de ceux qui me sont chers, et il ne s'agit pas de le confondre avec une nécessité factuelle. Quand bien même la personne photographiée serait désormais complètement oubliée, quand bien même son nom serait effacé pour toujours de la mémoire des hommes, eh bien malgré cela, ou précisément pour cela, cette personne, ce visage exige leur nom, exige qu'on ne les oublie pas. Agamben insiste ici sur quelque chose d'important. Je retrouve une telle exigence dans les photographies de Lempert. Pourtant, ce ne sont pas des personnes, au sens où on l'entend, qui sont représentées ici, mais le plus souvent des bêtes, des plantes, des choses et toutes sortes de créatures non humaines. Cette différence m'amène à penser que ce sont moins les noms des choses que leur texture et leurs relations qui exigent de ne pas être oubliées. Ce qui importe dans un visage, ce n'est pas son titre, mais la manière dont le monde l'a patiemment taillé, ce qu'on nomme son caractère, son expression, sa singularité. Les livres, les films, les images, les théories, les poèmes, les délires. Je me demande si ce mélange ne pourrait pas nous tenir lieu de méthode. Je me demande aussi si cette méthode n'est pas propre à ce temps malade de lui-même que l'on nomme Apocalypse. Je ne sais pas si le monde va finir bientôt, mais je sais qu'il doit changer tout de suite. Je sens des forces aliens dans ma tête prier pour que l'humain, altéré, se fonde dans le moule du monde. Ces forces aliens sont des forces amies. Joren Lempert les connaît bien. Il travaille avec elles. Je me pose des questions. Je me demande ce qu'il restera de ce jardin d'hiver quand le monde sera détruit. Je veux dire, je me demande ce qu'il reste de ce jardin d'hiver maintenant que le monde est peut-être détruit. Joren Lempert met des photographies côte à côte. Il opère des rapprochements qui font sens, des rapprochements sensibles. Parfois, ces rapprochements sont secrètement savants. L'auteur sait, par exemple, que les propriétés de telle ou telle fleur ne sont pas sans lien avec telle ou telle pratique humaine. Pourtant, mon ignorance de spectateur ne gâche rien. Les images sont là et leur intelligence, leur capacité à créer du lien, déferlent sur moi comme lorsque la marée monte, tandis que je ne sais rien du mouvement de la lune plus haut. Je ne veux rien savoir, mais je sens tout. Je veux tout sentir. Et que sentir à ce point soit comme faire disparaître l'humain en moi. Et qu'alors justice soit faite. N'être plus qu'émulsion sensible, imagination créatrice, matière mouvante, feu de forme, sombre alien, pur bonheur. Comme des chaudrons dans lesquels des potions mijotent à petit feu. Les murs, pourtant si blancs, comme ceux d'une caverne anti-platonicienne. Mijoter, cela signifie faire cuire lentement, mais aussi préparer quelque chose en secret. Les photographies de Joren Lempert mijotent quelque chose. Elles préparent une potion qui est aussi une sorte de conspiration. Elles sont au service du monde, par-delà l'opposition entre humain et non-humain. Je pourrais parler plus fort, mais c'est comme si les photographies en présence me l'interdisaient. Les images mélangées forment des potions. Qu'est-ce qu'une potion d'image ? La lumière diminue et la minuscule coccinelle photographiée par Lempert me répond. Une potion d'image, c'est le monde. Mais le silence qui règne ici n'a rien de religieux. Ce n'est pas le silence dévot des lieux silencieux. Non, c'est un autre silence. Silence de la chambre noire. Silence de la chimie en train de faire son affaire. Silence de l'ombre en train de préparer le retour de la lumière. Silence aussi de l'anonyme matière. Silence des créatures qui peuplent les photographies de Lempert. Silence des bêtes, silence des fleurs, silence des arbres. Silence aussi des humains qui dorment au soleil sur les bancs, comme font les chiens sur la poussière des seuils. Lacan disait de l'inconscient qu'il était langage. Dans les rêves, les choses sont toujours des mots. Mais sous les mots, les choses grouillent. Il y a des fourmilières sous les pierres, des mondes sous les mots, qu'on n'imagine pas. J'ai l'impression que les images de Lempert sont situées en deçà du langage, témoignage obscur et silencieux d'un monde pré-individuel où la conscience est moins le mouvement d'un réfléchir que le geste d'un toucher, Le monde touche le monde, se touche lui-même. Et se toucher est simultanément de nature affective et formelle. Je veux dire, à l'endroit où le monde multiple se touche lui-même, ce qu'on appelle nature se révèle être un mouvement simultanément affectif et formel. Je traverse le jardin d'hiver de Jørgen Lempert et je comprends que la phrase « la matière transforme la matière » dit exactement la même chose que la phrase « la matière émeut la matière ». A le mérite de nous rappeler les liens étroits qui unissent le mouvement de l'émotion et celui de la mutation. Il n'y a pas de devenir animal, seulement des choses qui nous touchent et, ce faisant, nous transforment. Seulement des images qui nous passent à travers le corps, des images qui nous trouent, qui nous altèrent, qui nous aliènent, pour le meilleur et pour le pire. Tout ça me rappelle la sublime définition que Novalis donne de la nature, dans un livre inachevé intitulé « Les disciples à Saïs ». « La somme de ce qui nous touche, écrit-il, on l'appelle la nature. Et la nature est donc en relation immédiate avec ces parties intégrantes de notre corps que nous appelons les sens. Des liaisons inconnues et mystérieuses dans notre corps nous permettent de conjecturer des liaisons inconnues et mystérieuses dans la nature. Il suit que la nature est cette communauté surprenante où nous introduit notre corps, et que nous apprenons à connaître dans la mesure où ce corps développe son organisation et ses facultés. Je me demande si les traces de pathos ne sont pas des entités spectrales. Et surtout, je me demande si le monde n'est pas, pour une bonne part, constitué de spectres. Si la photographie telle que la pratique Jørgen Lempert est à ce point puissante, et pas aussi sage que prévu, c'est qu'il suffit de plisser les yeux pour y voir les cohortes de spectres dont le monde est tissé. L'exposition de Lempert fait penser à l'atlas Mnemosyne de Warburg, dans lequel ce dernier avait rassemblé des images de diverses natures afin de faire apparaître le portrait psychopathologique de la culture. Mnemosyne, c'est la muse de la mémoire. Mais de quoi la photographie est-elle vraiment la mémoire? Mémoire des rencontres? La photographie est une technologie mémorielle, mais cette technologie est aussi un toucher. La photographie porte la mémoire de ce qu'elle montre, mais aussi la mémoire de son propre geste, c'est-à-dire mémoire de la rencontre de la lumière et de l'émulsion argentique. La spectralité est aussi tactilité. Si j'aime à ce point cette photo de Lempert sur laquelle une main fraye avec une épine, c'est qu'elle révèle la nature profondément tactile de la photographie. La matière frotte contre la matière, et forment des images. Les images frottent les unes contre les autres et forment du feu. Le feu frotte contre le feu et forme du feu. Et à la fin, ça s'appelle le monde. Et ça brûle. L'affect est toujours déjà émulsion. La photographie rejoue technologiquement le mouvement de l'affect. L'affect est toujours déjà spectral. L'affect est individuation, information, imagination. Toutes les images, toutes les formes, toutes les puissances d'individuation naissent dans ce lieu interstitiel qu'est l'affect. La photographie n'invente pas les spectres, mais elle les documente techniquement, mais les frottements entre les choses. Pourtant, il faudrait ne pas rendre tout ça trop sage. Il faudrait entendre, derrière la beauté propre à ces photographies, quelque chose comme une résistance à cette même beauté. Il faudrait se représenter le supplice des papiers barrités plongés dans des bains chimiques dont seul Lempert a le secret. Peut-être que les petites bêtes entendent les gémissements de la matière dans la chambre noire. Ce sont là des gémissements de plaisir ou de souffrance, ou les deux. Oui, sans doute les deux. Je ne sais pas ce que font en vérité les photographies de Jørgen Lempert, mais je sais ce qu'elles me font. Il n'y a pas de vérité, pas d'essence de la photographie. Pas de vérité, pas d'essence tout court. Il y a seulement des chemins qu'il faut choisir, c'est-à-dire inventer. Il y a seulement des formes plus ou moins libres. Seulement des poèmes qui frappent à la porte et qui exigent qu'on les délivre, qu'on les émancipe. Seulement des images. Le poème aussi trahit forcément la langue, et la langue trahit forcément le poème. Tout trahit tout. Rien n'est innocent. Les images non plus ne sont pas innocentes. Peut-être dit innocente la forme qui ne nuit à rien, qui n'est coupable de rien, qui n'a fait de mal à personne, qui ne connaît ni le mal ni le bien. La forme innocente n'est pas seulement sans défense, elle est aussi inoffensive. Elle appartient à un monde idéal où le négatif n'a pas sa place. Pourtant, le négatif, en photographie, c'est toute une histoire. Les photographies de Jørgen Lempert ont quelque chose de très tendre. Le monde qui se dessine entre elles est un monde très doux. Ce monde très doux est un monde sans homme, ou presque. Photographie de Jørgen Lempert, le non-humain l'attend toujours, pour ainsi dire, au tournant. De même, lorsque la culture s'invite dans une image de Lempert, comme par exemple lorsqu'il photographie le détail d'un tableau ou le détail de la reproduction d'un tableau, c'est toujours, semble-t-il, pour rendre justice à du non-humain. Une nuque se fait d'une sous les anneaux hirsutes d'une chenille. Une épine de rose effleure le moelleux d'une main. Le détail d'un tableau de la Renaissance délivre une fleur ou un arbre du silence auquel on les avait condamnés. Un sac plastique se fait cosmos étoilé, et ainsi de suite. Au premier abord, on pourrait croire que ces images sont sages. Et pour quelqu'un comme moi, qui reproche volontiers à la photographie ses facilités, il se vaudrait de peu qu'on ne trouve là que l'archive un peu mièvre d'un naturaliste un peu esthète. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les images de Lempert ont beau être belles, il faut se rendre à l'évidence. Elles ont quelque chose d'impitoyable et de presque cruel. Comme si l'émulsion sensible, contenue dans le procédé propre à la photographie argentique, se rejouait en nous. Comme si, à l'endroit de notre corps, la matière mordait la matière. Les photos font du mal, et pourtant elles sont tendres. J'ai fait la même expérience. J'ai regardé de vieux albums photos, et ce que j'y ai vu m'a fait souffrir. J'ai toujours trouvé ça terrible, les souvenirs. Les mondes d'avant sont des mondes perdus. Derrière moi, le passé comme un village dévasté, dans cette photo. Pourquoi j'ai des frissons face à ce papillon? J'ai connu cette lumière. J'ai connu cette ombre. Je connais cette sensation. Je veux dire, je l'ai connue, je la connais, je vais la connaître. La photographie ne parle pas seulement du passé, mais de l'enchevêtrement même du temps. Temps d'extinction, le monde est hors de ses gonds. La fragilité de tout est enfin révélée. Je voudrais revenir une dernière fois sur le titre de l'exposition dont je viens de parler, Jardin d'hiver. Pour qui est familier de la théorie de la photographie, cette expression n'est pas sans résonance. En effet, la chambre claire de Barthes, livre de deuil où le savoir sacrifie au pathos, a pour centre obscur une photographie que Barthes lui-même appelle la photographie du jardin d'hiver. Cette photographie est, comme on dit, la grande absente du livre de Barthes, qui est par ailleurs illustré de 25 photographies en noir et blanc, pour la plupart célèbres. Or, en termes de théorie de la photographie, la chambre claire de Barthes est pour le moins étrange. L'auteur, endeuillé par la mort de sa mère, décide de s'y faire sauvage et sans culture, et il livre une théorie passionnée, passionnelle, de la photographie. Et une sorte de lien, de nœud, entre la photographie, la folie, et quelque chose dont je ne savais pas bien le nom. Je commençais par l'appeler la souffrance d'amour. Pourtant, ce n'était pas tout à fait ça. C'était une vague plus ample que le sentiment amoureux. Dans l'amour soulevé par la photographie, une autre musique se faisait entendre, au nom bizarrement démodé, la pitié. Je rassemblais dans une dernière pensée les images qui m'avaient point, puisque telle est l'action du punctum. À travers chacune d'elles, infailliblement, je passais outre l'irréalité de la chose représentée. J'entrais follement dans le spectacle, dans l'image, entourant de mes bras ce qui est mort, ce qui va mourir. Comme le fit Nietzsche lorsque le 3 janvier 1889, il se jeta en pleurant au cou d'un cheval martyrisé, devenu fou pour cause de pitié. Peu après, Barthes livre son ultime conclusion. Écrit-il, la photographie peut être l'un ou l'autre, sage si son réalisme reste relatif, tempéré par des habitudes esthétiques ou empiriques, folle si ce réalisme est absolu et, si l'on peut dire, originel, faisant revenir à la conscience amoureuse et effrayée la lettre même du temps. Mouvement proprement révulsif qui retourne le cours de la chose et que j'appellerai pour finir l'extase photographique. Telles sont les deux voies de la photographie. À moi de choisir, de soumettre son spectacle au code civilisé des illusions parfaites ou d'affronter en elle le réveil de l'intraitable réalité. Toutes les images parlent d'une autre image qui manque. Toutes les photographies parlent d'une photographie perdue, comme dans le livre de Barthes, la photographie du jardin d'hiver. Mais plus encore que les images, ce sont les formes et les affects qui sont manquants, perdus, touchés. Si les photographies de Lempert nous touchent, c'est qu'elles documentent le mouvement du monde en train de se toucher, et cela à travers cet autre toucher, celui de l'ombre et de la lumière, qu'opère la photographie. Je me demande si Lempert avait connaissance du livre de Barthes. Pour être honnête, je pense que oui. J'aurais pu lui en parler lorsque je l'ai croisé au vernissage de l'exposition, mais je me suis dit que certaines questions devaient rester sans réponse. D'une certaine manière, j'ai déjà ma réponse. J'ai choisi de croire qu'en intitulant son exposition « Jardin d'hiver », Jurjen Lempert avait cherché à nous mettre sur une piste. C'est une forme de paranoïa que de croire que les événements sont des énigmes et que les choses partout nous font signe. Je crois que j'ai fini par assumer cette forme de paranoïa. Car l'amour des signes s'enracine dans l'amour du sens, au sens sensible du terme. Lorsque le monde m'envahit sous forme de sensations, il donne littéralement du sens à ma vie. Ce sens est tout à la fois intelligible et sensible. Ce que nous donne Lempert avec ce titre, Jardin d'hiver, c'est donc une énigme. Le fait que le jardin d'hiver de Lempert rappelle, comme on rappelle un fantôme, l'image fantôme de la chambre claire, n'est pas un hasard ou une coïncidence. Comme le dit mon ami Lou, les hasards et les coïncidences sont des pratiques qui dépendent d'un certain régime d'attention, d'une certaine disponibilité à l'épaisseur du réel. J'ai suscité, j'ai fomenté cette coïncidence. Je crois que Lempert savait, ou au moins avait le pressentiment, qu'il y aurait quelqu'un, quelque part, pour fomenter quelque chose de cet ordre. En nommant son exposition « Jardin d'hiver », Lempert a cherché à nous renseigner sur le caractère pathique de ses photographies, sur l'espèce de folie ou de souffrance d'amour, pour reprendre les mots de Barthes, qui permettent de voir dans l'opération photographique le mouvement même du monde, mouvement extatique et amoureux, où se révèle l'équivalence de la forme et de l'affect, de la tactilité et de la spectralité.